Ayez un même amour, un même cœur, une unité de pensée. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ, lui qui est de condition divine. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Hier, à 15h, un avion s'est posé à Washington, D.C., capitale américaine. Et de cet avion est sorti Andrew Brunston, qui est un pasteur qui était emprisonné en Turquie depuis 2016 suite à la tentative de coup d'État contre le président en place, Erdogan, et à la grande purge qui a été menée par le pouvoir en place. Le pasteur Brunson avait été accusé de collusion avec les Kurdes et donc de participer à une organisation terroriste. Suite à la pression du pouvoir américain, Andrew Brunson a fini par être placé en maison surveillée, en liberté provisoire en Turquie. Et cette semaine, il a enfin été autorisé à pouvoir rentrer aux États-Unis. Cette épître de Philippiens, c'est un peu le même contexte. Paul est en prison à Rome, certainement au crépuscule de sa vie. L'empereur devant lequel il doit comparaître s'appelle Néron. Et en plus, si les choses n'étaient pas suffisantes, Paul est confronté à des prédicateurs jaloux qui lui font concurrence. Mais au final, il se réjouit d'une chose, c'est que l'évangile est annoncé coûte que coûte, même si certains ne le font pas avec des intentions tout à fait honnêtes. Et ce qui est extraordinaire, c'est que de la même manière qu'on peut se réjouir de la libération de ce pasteur après 2 mois d'emprisonnement en Turquie, on peut se réjouir en lisant cette épître aux Philippiens avec Paul. Paul, dans cette épître, nous transmet toute la joie qu'il ressent de connaître le Seigneur Jésus-Christ et toute la joie qu'il ressent d'être en communion avec les Philippiens. En fait, dans cette épître, on trouve 6 fois le mot « joie », on trouve 6 fois le verbe « réjouir ». Et lorsqu'on revient au contexte dans lequel l'église de Philippe a été créée, il faut aller dans le livre des Actes, au chapitre 16, on découvre que, à 15 reprises, le verbe « réjouir » ou le mot « joie » apparaissent dans ce passage. La relation de Paul avec l'église de Philippe est donc tout à fait particulière. C'est l'église de la joie, c'est l'église de sa joie, et c'est une église qui, encore aujourd'hui, nous parle de la joie qu'il y a à connaître le Seigneur Jésus et à pouvoir le partager avec d'autres personnes. Il se trouve que dans cette ville de Philippe, c'était une ville riche, c'était une ville avec des mines d'or, c'était une ville stratégique, une colonie romaine, c'était une ville florissante. Mais malgré tout, eh bien, les citoyens de cette ville ont été attentifs au message de Philippe, parce qu'il leur manquait une chose. Il leur manquait la joie. On peut posséder toutes les richesses du monde, on peut être dans une position tout à fait confortable, mais Il n'y a aucun bien matériel qui peut nous apporter une joie profonde et durable. Et c'est pour ça que dans notre pays, où nous sommes dans une situation de richesse, en tout cas, on peut le voir relativement à ce qui se passe ailleurs dans le monde, eh bien, il y a des choses pour nous à recevoir. Je veux juste rappeler ce que le prédicateur de la semaine dernière, Franz Galland, nous a dit sur le chapitre 1, à savoir que Paul a exprimé toute sa joie pour le fait que malgré les épreuves qu'il vit, malgré son temps en prison, eh bien, ces épreuves ont contribué au progrès de l'Évangile. À tel point que même en prison, il peut encourager ceux qui sont éprouvés. On a ici une description d'une des plus grandes campagnes d'évangélisation de l'Antiquité. Parce que, comme France nous l'a rappelé la semaine dernière, Paul était gardé H24 par des soldats qui se relayaient toutes les 6 heures. Et il leur parlait de ses convictions, il leur parlait de son espérance, il leur parlait de Jésus-Christ. Dieu avait en fait conçu cette campagne d'évangélisation au-delà même de tout ce que Paul aurait pu lui-même concevoir. Et la joie de Paul exprimée auprès de ses soldats a eu un impact extraordinaire, à tel point qu'il y a un historien qui parle de la propagation de la Bible et du message du christianisme dans les premiers siècles de l'Antiquité. Il parle de cette propagation comme étant le best-seller de l'Antiquité. Cette joie que Paul exprime, elle se traduit par un souhait très clair. Paul dit qu'il attend des Philippiens qu'ils soient fermes dans un même esprit, qu'ils combattent d'un même cœur pour la foi de l'Évangile, qu'ils participent au même combat que lui mène. Paul combat donc pour l'Évangile. Il cherche un encouragement auprès des Philippiens et il encourage les Philippiens à souffrir et à combattre comme lui pour l'Évangile. Sauf que l'église de Philippe a un problème. Le problème de l'église de Philippe, c'est pas un problème de déviance morale comme à l'église de Corinthe. C'est pas un problème de théologie erronée comme à l'église de Galate. Non, le problème de l'église de Philippe, c'est qu'elle fait face à des divisions entre ses membres. Des difficultés relationnelles, des difficultés apportées par des personnes qui cherchent à tirer la couverture vers eux-mêmes et pour leur propre intérêt. Et là, je suis en train de me dire qu'il faudrait que j'arrête de parler, que j'aille m'asseoir. Parce que plus je parle, plus je risque d'y dire des choses que vous allez peut-être mal prendre, ou mal comprendre, ou qui vont peut-être vous blesser, ou vous heurter, etc. C'est rapide, lorsqu'on est en groupe, et qu'on se côtoie, et qu'on échange des choses, de se blesser, de dire des choses qui, sont parfois restent dans la tête, et trottent dans la tête, et nous produisent en nous de la rancune. C'est la situation de tout groupe. Pas la peine d'être un groupe chrétien pour ça. C'est pareil sur toute la planète. Il se trouve que si cela est vrai pour tout groupe, d'avoir des moments où on peut se disputer, où on peut être en désaccord, où on peut être en bisbille, cela peut parfois se terminer en division, en scission. Chacun part de son côté, ou certains choisissent de ne plus venir dans telle ou telle église parce qu'il y a telle personne qui lui a dit telle chose, ou qui a oublié de lui dire bonjour, etc. Paul exhorte donc les Philippiens à conserver un état d'esprit qui soit centré sur l'essentiel, et non sur ce qui est secondaire. Et qu'est-ce qui est essentiel, selon Paul? C'est l'unité. Il répète ici ce qui a été évoqué à la fin du chapitre 1. Il répète son désir de voir les Philippiens vivre en plein accord avec un même amour, un même cœur, une unité de pensée. Comme on l'a vu la semaine dernière, cette unité doit être opposée à la rivalité. Ce que Paul craint, c'est que chacun travaille pour son propre intérêt. C'est le cas, l'exemple est frappant, de tout parti politique. Lorsque les hommes politiques d'un même parti sont ensemble devant le public, ils affichent une unité que l'on qualifie toujours de unité de façade, puisque derrière on sait qu'il y a des luttes de pouvoir interne, etc. Mais ça peut être aussi la même chose dans une église, selon notre motivation. Quelle est la base de cette unité? Eh bien, la base de cette unité, c'est l'humilité. Verset 3, ils disent « Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. » Il y a un petit garçon qui, pour la première fois, a l'occasion d'aller visiter une ferme. Et puis il s'adresse au fermier « Monsieur, pourquoi est-ce que toutes les vaches n'ont pas des cornes ?» Alors le fermier il dit « Ouais, c'est une bonne question. » Et tu vois, certaines vaches là que tu vois devant toi, parfois elles sont un petit peu belliqueuses, elles se battent. Et puis du coup, ce qu'on fait, c'est que lorsqu'elles naissent, on verse un petit peu d'acide sur les cornes et puis en fait ça coupe la croissance des cornes. Et puis parfois il y en a certaines où on leur laisse parce qu'elles ne sont pas agressives et puis voilà, c'est aussi joli. Et puis le garçon il dit oui mais celle-là là. Et puis là le fermier lui dit non mais là ça c'est pas des vaches, c'est un bœuf en fait. C'est un cheval. L'illustration est un peu étonnante, mais on ne sait jamais. Si je demandais ici dans la salle combien de personnes savent combien de trayons a une vache, on serait surpris. J'ai déjà fait d'expérience. L'image, c'est que on a souvent aussi une mauvaise manière de comprendre ce que c'est que la différence entre un cheval et une vache, ou encore la différence entre un chrétien et quelqu'un qui pense être chrétien. Dans le passage que Paul nous propose aujourd'hui, il explique que, justement, il ne s'agit pas seulement de dire « Je suis chrétien, membre de l'église de Philippe et je suis joyeux. » C'est pas l'apparence qui fait de ces Philippiens, des chrétiens, mais c'est réellement ce qui se passe dans leur cœur et ce qui se traduit dans les faits. Et il se trouve que la preuve d'un christianisme authentique et de la réalité de la vie de Christ dans le cœur du chrétien se traduit par sa propension et son amour à rechercher l'unité. Et cette unité, elle est basée sur quelque chose. Cette humilité, elle est basée sur l'humilité. Et cette humilité, elle provient de l'Évangile. Dans ce passage, Paul commence par nous dire « S'il y a donc quelque compassion dans l'amour, s'il y a quelque soulagement en Christ, il nous montre clairement que tout l'encouragement que nous pouvons recevoir, que toute la consolation que nous pouvons recevoir, que toute la communion que nous pouvons avoir avec Dieu, les uns avec les autres, tout cela vient de Christ lui-même. La réalité, c'est que ce n'est pas moi qui suis capable de vivre et de travailler pour l'unité avec toi, ou avec toi, ou avec toi. Ce n'est pas moi qui suis capable de travailler avec humilité pour te servir, te servir, te servir. Il y a besoin de quelque chose de plus puissant qui s'appelle l'Évangile. Et lorsque l'Évangile se traduit dans la vie d'un chrétien authentique, il produit de l'humilité, qui produit de l'unité, et cela produit de la joie. Et un chrétien joyeux est un chrétien. Ça rime. C'était un week-end d'église. Est un chrétien contagieux. On est d'accord. Donc l'Évangile continue à se répandre. Soyons honnêtes. D'où peut provenir le manque d'humilité ou encore les rivalités? Qui n'a pas peur d'être oublié, remplacé, dépassé, effacé, de ne pas recevoir de reconnaissance lorsqu'il a fait quelque chose pour la communauté, de ne pas recevoir de remerciements lorsqu'il s'est comporté correctement? Entre l'unité et la rivalité, il y a deux camps, mais le passage de l'un à l'autre est très rapide et on est très fort pour la rivalité, on est beaucoup moins fort pour être capable de cultiver l'humilité. Paul donne un défi quand même incroyable, regarder les autres comme étant supérieurs à nous-mêmes. Je peux vous poser une question piège, vous n'êtes pas obligé de répondre en levant la main. Qui est humble ici? Ah, c'est une question piège. Allez, j'en ai une qui n'est pas une question piège. Qui est plus humble que moi? Qui a pensé, mais quelle arrogance de dire ça? La transposition de l'humilité dans la vie réelle, ce n'est pas des paroles, ce n'est pas être un petit peu, toujours dire oui, amen à tout ce que les autres nous demandent, ou être prêt à faire tout ce que les autres nous demandent. Non, la vraie humilité, elle a pour conséquence l'unité. L'humilité, c'est fuir les rivalités, et c'est fuir le fait de nuire aux autres pour servir ses propres intérêts. Il se trouve que ça m'est arrivé une fois de cuire du pain, et puis en regardant le pain dans le four, je trouvais que c'était bizarre, il restait assez plat en fait. Puis comme j'aime pas trop gaspiller les choses, après j'ai mangé mon pain, mais une tranche c'était bon, j'étais calé pour la matinée, quoi. Et en fait j'avais oublié de mettre de la levure. Mais c'est pareil dans notre vie chrétienne, si on oublie un ingrédient essentiel, notre vie chrétienne ne va pas avoir de saveur, va nous paraître lourde, va nous paraître pénible. Et puis, entre être chrétien ou pas être chrétien, quel avantage? Par contre, si tous les ingrédients sont là, eh bien, quelle différence ça peut faire? Si l'Évangile produit en moi l'humilité, si l'humilité produit l'unité et la joie, mais alors, je suis le plus heureux des chrétiens et je peux devenir un chrétien. Voilà. Paul lance un défi au verset 5 en disant que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Paul, il a conscience que ce qu'il demande aux Philippiens, c'est au-dessus de leur portée. Oubliez les rivalités pour vivre dans l'unité, oubliez leur orgueil pour vivre dans l'humilité, c'est inatteignable. Et donc, il leur dit, mais ne vous inquiétez pas, il y a un modèle. Ce modèle, c'est Jésus-Christ. Ce modèle, il le présente en trois étapes successives. Première étape, il montre que Jésus est Dieu, égalité avec Dieu. Deuxième étape, il montre que Jésus est homme, en devenant semblable aux êtres humains. Troisième étape, il montre que Jésus est Seigneur. Dieu l'a élevé à la plus haute place. Premièrement, Jésus est Dieu. Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver. Et après, à la suite de ce passage, on lit que toute langue Tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Et je mélange avec un autre passage, mais l'idée est la même. Et il se trouve que, en fait, c'est une référence à Ésaïe 45, dans lequel on lit « Je suis le seul Dieu juste et qui sauve, chacun pliera le genou devant moi et toute langue prêtera serment par moi. » Que fait Paul ? Paul explique donc que ce texte d'Ésaïe de 400-500 ans avant Jésus-Christ, qui est une parole prononcée par Dieu, s'applique à Jésus-Christ. Jésus est donc Dieu de condition divine. Mais Jésus est aussi homme. Il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Jésus qui était dans la gloire, Jésus qui était auprès de Dieu, Jésus qui était Dieu, a accepté de descendre sur la terre pour prendre une condition humaine. Et il se trouve que cela s'est fait de trois manières. Jésus est un homme humble de trois façons. Il s'est dépouillé de sa gloire, il a pris une condition de serviteur, alors que logiquement il aurait pu prendre une condition de seigneur, de roi. C'est d'ailleurs ce que certains auraient aimé. Et il a pris une condition de simple homme en devenant semblable aux êtres humains. Simple homme, c'était pas un super héros. Il n'était pas là pour montrer à quel point son humanité était en fait une humanité d'un homme augmenté, avec des super capacités. Il se trouve que Jésus est un homme humble et un homme obéissant. Un homme obéissant parce que de sa naissance jusqu'à la mort de la croix, il a vécu une vie en pleine obéissance. Et son obéissance s'est manifestée par le fait même qu'il a accepté d'aller jusqu'à la croix et qu'il n'est pas parti en courant pour essayer de sauver sa vie. C'était ce que ce que Dieu demandait qu'il fasse, et c'est ce qu'il a fait. Et jusqu'au bout, il a obéi, et il est allé à la croix. Il a quitté sa gloire pour finir sur la terre, sur une croix, dont la mort à l'époque était considérée comme quelque chose de terriblement honteux. C'était le pire. La pire manière de mourir. Et pourtant, il a obéi et il est allé au bout de cela. Jésus était donc un homme humble, un homme obéissant. Et Paul demande à ce que notre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Et je voudrais juste m'arrêter là parce que Jésus-Christ, lui, est parti du ciel pour venir sur la terre. Il a quitté la gloire de Dieu pour venir sur la terre. Il est descendu pour venir jusqu'à nous. Sauf que Jésus-Christ est en fait le modèle d'un anti-héros. Ce n'est pas un leader qui a quitté le ciel pour s'imposer sur la terre. C'est un leader qui s'est imposé en s'humiliant et même en se sacrifiant. Et lorsque Paul dit « Ayez en vous que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ », c'est ce modèle-là qu'il nous présente. Je suis de condition humaine, comment puis-je aller vers la gloire ? Je suis de condition humaine, comment puis-je aller vers Dieu et avoir une relation avec Dieu, parler avec Dieu et que Dieu me parle ? Jésus-Christ, lui, il a fait le chemin inverse et mon désir, c'est de faire ce chemin de partir de la terre vers le ciel. En fait, ce que Jésus nous explique ici, c'est que pour pouvoir atteindre le ciel, il faut passer par l'humilité. Et cette humilité, ce n'est pas, pour l'emprunter, ce n'est pas un escalier qui monte, c'est un escalier qui descend. Et en fait, pour atteindre la présence de Dieu, eh bien, ce n'est pas en cherchant à nous élever toujours plus haut que c'est possible, mais c'est en reconnaissant que nous avons besoin de nous abaisser toujours plus. Aussi bas Christ s'est abaissé, et aussi haut a-t-il été élevé. Alors, j'aimerais rendre cela un petit peu plus concret à travers un exemple d'un pasteur qui, dans sa jeunesse, se rappelle d'une scène à laquelle il a assisté. Il se trouve que sa maman l'avait amené à une réunion d'église où le but, c'était de parler de différents soucis dans l'église, et puis c'était une sorte de conseil d'église. Et puis au cours des débats, il se souvient qu'il y a deux hommes qui se sont opposés assez violemment. Il y a l'un des deux hommes qui s'est levé et puis qui a voulu défendre ses idées bec et ongles. Et il a dit, de toute façon, tout ce que je veux, c'est que mes droits soient respectés. Et puis à côté de lui, il y avait un vieil Écossais. Et les vieux Écossais, vous savez, problème d'oreille. Et donc il a demandé à ce frère qui s'était levé en disant « Vous pouvez répéter, s'il vous plaît ?» Et donc, celui qui était debout s'est répété, et puis l'Écossais alors a dit « Mais vos droits, frère, vous voulez que vos droits soient respectés? C'est vraiment tout ce que vous voulez? Bah, écoutez-moi, ce à quoi vous aviez droit avant de connaître Christ, c'était l'enfer. C'était d'être séparé de Dieu pour toujours. C'est le Seigneur Jésus qui est venu sur la terre, et non pas pour faire valoir ses droits, mais Jésus-Christ est venu sur la terre pour faire valoir ses torts. Et vous savez quoi? Il les a obtenus. Lorsque Christ est mort sur la croix, il n'est pas mort parce que il avait des droits, mais il est mort parce qu'il a lâché tous ses droits et tout ce à quoi il, et tout ce qu'il méritait d'avoir. Et il a pris tous nos torts sur lui. Et alors l'homme debout, qui était rouge d'irritation, il est resté silencieux un moment, un peu choqué, et puis s'est assis, puis il a dit « Vous avez raison, je retire ce que j'ai dit, et donc agissez comme bon vous semble. » Et la querelle s'est arrêtée là, entre ces deux protagonistes. Le fait de prendre la perspective de Christ dans ce que nous vivons, ou dans les querelles que nous pouvons avoir, peut nous mener à prendre des décisions qui vont parfois à l'encontre du bon sens, mais qui pourtant peuvent être terriblement apaisantes et libératrices. Il y a quelques années en arrière, j'ai été confronté dans mon travail à deux personnes qui se sont heurtées violemment, et j'ai pris position pour un côté dans l'histoire, qui me semblait le côté le plus juste. Et puis après coup, j'étais absolument pas en paix par rapport à l'autre personne. Et c'est quelque chose qui me travaillait énormément. Et puis j'en ai parlé avec Jean-Lionel notamment, et j'en suis arrivé à la conclusion que même si cette personne avait agi d'une manière qui était pas correcte, et qu'elle était à l'origine de cette querelle, malgré tout, je ne pouvais pas continuer à travailler avec elle en gardant de la rancœur envers elle. Et donc j'ai pris une feuille de papier, un stylo, j'ai écrit une lettre dans laquelle j'expliquais pourquoi je voulais rester en bon terme avec elle et que je voulais continuer à pouvoir travailler avec elle correctement et ne pas garder en moi de la rancune envers cette personne. Et ça m'a fait du bien. L'attitude de Christ, elle est bien souvent à l'opposé de notre attitude naturelle. Nous avons tendance à nous considérer qu'on peut s'en sortir dans notre vie sans Dieu. On peut être indépendant de Dieu. On peut nier son autorité sur notre cœur, sur notre vie. On peut aspirer à l'immortalité ou ne tout simplement pas nous soucier de l'immortalité et nous comporter comme si on était des dieux. Cependant, Paul ajoute quelque chose dans ce passage. Il explique que Jésus est aussi Seigneur. Quelle a été la conséquence de l'abaissement volontaire de Christ? C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre, sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. À partir du moment où Jésus a renoncé totalement à ses droits, Dieu lui a conféré tous les droits sur l'univers tout entier. Parce que Jésus a confié son sort à son Père, Celui-ci s'est chargé d'assurer sa défense et de faire valoir ses droits. Paul y dit en quelque sorte aux chrétiens qui peuvent avoir des tensions, renoncez à vos droits, n'insistez pas pour défendre votre cause. À l'exemple de Christ, laissez tomber vos revendications, acceptez d'avoir tort ou de ne pas avoir raison, et remplacez l'égoïsme par l'humilité. Laissez à Dieu le soin de vous défendre. Jusqu'à présent, tout ce que je vous ai dit là, tout ce qu'on trouve dans ce passage, en fait, on l'a déjà dit au début de ce culte. À travers chaque chant que nous avons entonné, il y avait ces principes qui apparaissaient. Mais il y a un principe que d'ailleurs je n'ai pas entendu dans nos prières tout à l'heure, ni dans les chants. C'est qu'on peut avoir tendance à s'émerveiller facilement du Dieu créateur, du Dieu tout-puissant, du Dieu d'amour et du Dieu bon. Mais par contre, on s'émerveille moins du Dieu dans lequel nous devrons tous un jour plier le genou et nous incliner. Il se trouve que réaliser que Dieu est celui qui règne et qui un jour va nous demander à tous, qui que nous soyons, de plier le genou devant lui, est quelque chose qui devrait nous remplir de crainte, voire de peur. Dans la culture juive, c'est quelque chose de très fort, le fait de plier le genou. Vous connaissez l'histoire de Daniel dans la fosse aux lions, qui est accompagné de cette autre histoire, de ses trois amis, qui un jour ont été confrontés à un problème. Le roi Nebuchadnezzar fait construire une statue de 30 mètres de haut, en or, et il demande à toute la population de Babylone de se prosterner devant cette statue et de l'adorer. Une manière de montrer à quel point ils étaient redevables envers ce roi extraordinaire. Et Shadrach, Meshach, Abednego ont refusé et ils ont fini en barbecue dans la fournaise ardente. Ou pas tout à fait, puisque vous vous souvenez de cette histoire. Ils ont été sauvés de manière miraculeuse. Pourquoi est-ce qu'ils ont été jetés dans cette fournaise ardente? Parce qu'ils ont refusé de plier le genou devant ce roi qui voulait se mettre à la place de Dieu. Combien de fois nous refusons de plier les genoux devant le Dieu Tout-Puissant que nous adorons le dimanche matin et que nous louons pour son amour, pour sa bonté, etc. On s'émerveille facilement du Dieu créateur, du Dieu d'amour, mais on s'émerveille moins du Dieu dans lequel nous devons tous nous incliner. Et pourtant, lorsque nous reconnaissons que Dieu est Dieu, et qu'il a toute autorité sur nous, eh bien nous faisons justement un acte d'humilité. Et regardez ce qu'il se passe lorsque on plie le genou devant Dieu. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa alors sa main droite sur moi en disant, n'aie pas peur, je suis le premier et le dernier, le vivant, j'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Et Jésus ici aide Jean à se relever. Lorsque je reconnais que Dieu est Dieu, bien au-delà de tout ce que je peux imaginer et penser, et qu'il a une autorité, même sur ma vie, je m'humilie, et lui peut alors commencer son travail en moi. Il se trouve que, si je ne le fais pas, même le plus orgueilleux devra le faire un jour. Quant aux anges, qui n'ont pas conservé leur rang, mais ont abandonné leur demeure propre, il les a enchaînés éternellement dans les ténèbres pour le jugement du grand jour. Le jour vient où même Satan devra plier le genou devant Dieu. Et en fait, aujourd'hui, il est possible de reconnaître publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur. Et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu te seras sauvé. Le mot qui est employé ici est important. Si tu crois publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur. Ce n'est pas juste suffisant de reconnaître que Jésus est ton sauveur. Jésus veut aussi être ton Seigneur. Et Seigneur, ça veut dire maître. Pour résumer, Jésus-Christ a quitté la gloire divine en tant que Dieu pour venir sur la terre où il a pris une condition humaine. Il a accepté de passer de la gloire à une humanité et une humilité jusqu'à aller sur la croix pour mourir pour nous. Et c'est parce qu'il s'est humilié que Dieu l'a élevé et l'a glorifié. Mais c'est justement ce que Jésus a fait. Il l'a fait aussi pour nous prouver à quel point il mérite d'être notre sauveur, mais il mérite aussi d'être notre Seigneur, le maître sur notre vie, le maître sur nos motivations, et celui qui peut transformer notre cœur, qui a tendance à être plutôt orgueilleux que humble, plutôt plein de rivalité que plein de désir d'unité. Tous nos efforts, tous les efforts que je peux faire, que tu peux faire, pour essayer d'être plus humble, pour essayer de travailler à plus d'unité, tous ces efforts, tu n'as pas besoin de venir dans une église pour les faire. Il suffit d'aller dans n'importe quelle association, n'importe quel groupe, de lire des bouquins qui donnent des conseils sur cela. Sauf que les effets ne seront pas durables. Pour aller au-delà de ce qu'on ne sait pas faire, on a besoin d'une transformation de notre cœur, une transformation de notre être. Et qui peut faire cette transformation si ce n'est celui qui est le modèle parfait de l'humilité, de l'unité, et qui a été jusqu'à mourir sur la croix à notre place. Et si tu lui laisses de la place dans ton cœur, alors il va pouvoir faire ce travail en toi, produire de l'humilité, produire de l'unité, et produire de la joie, et faire de toi un chrétien contagieux. On peut se réjouir du fait que Andrew Brunston a été libéré, et une des premières choses qu'il a fait lorsqu'il est arrivé à Washington, c'est qu'il a simplement prié avec le président Donald Trump pour remercier Dieu de l'avoir libéré. Et ça, si ce n'est pas une expression de joie, que malgré les épreuves qu'il a vécues en Turquie, il reste reconnaissant auprès de Dieu à son retour. C'est aussi ce que j'ai envie de vivre et de connaître avec Jésus-Christ.